Europe 1.
Heures, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour un nouveau numéro d'Historiquement vôtre, l'émission idéale pour se cultiver, s'amuser, mais aussi, exceptionnellement aujourd'hui, se faire peur. Lui, la dernière fois qu'il a eu peur, c'est quand il a cru que son copain Macron était à deux doigts de remettre l'impôt sur la fortune.
Ah, j'ai eu peur.
Heureusement, c'était une blague, il vous faisait marcher. Bonjour Stéphane Bern.
Ah là là, ce qu'il ne faut pas subir dans cette émission. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Oui, chaque après-midi dans Historiquement vôtre, on réunit trois personnages issus d'époques différentes, mais qui ont un point commun. Aujourd'hui, celui d'être des sacrés monstres. En partenariat avec Lire, le magazine littéraire, et son nouveau hors-série consacré à Frankenstein et les monstres célèbres de la littérature, on va vous parler de la créature du docteur Frankenstein, mais aussi de Dracula, inspiré d'un personnage bien réel, celui-là, Vlad III, surnommé Vlad l'Empaleur.
Ça vous plaît déjà, hein? Oui, oui, oui.
Qui avait dit, c'est un supplice qui commence bien et qui finit mal.
Pascal Sauvé. Enchaînons.
Quant à vous, Mathieu, vous nous parlerez d'un monstre qui fait moins peur.
Oui, 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 oui. Bon, j'arrive, on va se remettre déjà de cette blague. Oui, je ne sais pas trop comment enchaîner. Je ne sais pas trop. Vous vous souvenez bien sûr de son embonpoint, ses flatulences et son teint verdâtre.
C'est une casaraille.
Non, Stéphane, c'est Shrek, l'ogre préféré des enfants, personnage assez éloigné du chic anglais que vous affectionnez, oui. Mais qui, vous verrez, vous rappellera probablement Olivier Pouls. Justement, bonjour Olivier Pouls.
Bonjour les amis. Toute ressemblance, franchement...
Vous avez le même coup de fourchette, en tout cas.
Oui, mais le teint un peu moins vert,
non,
quand
c'est
même.
Non, c'est vrai. Vous êtes d'un teint hâlé, vous êtes sublime. Oui. Dites-moi, Olivier, de quoi on parle aujourd'hui avec vous?
Eh bien, si je faisais un petit gratin... Pourquoi un petit, d'ailleurs? Un grand gratin dauphinois.
Ça serait mieux, on avait une mission spéciale monstre.
Oui. Magnifique.
Alors, il y a des faux pas ne pas commettre.
Exactement, hein. Là aussi, on se plongera dans...
Mettre du fromage.
Les losers, Stéphane, les tocards, c'est ça? On peut le dire, hein. On peut le dire.
Il aurait mis du gruyère râpé
dessus.
Mais
bien sûr.
Moi, je le commande chez Fauchon, il est toujours parfait. Toujours parfait. Qui est avec nous aujourd'hui? Regarde, écoutez, j'entends son rire.
Clémentine Bordier.
Clémentine est là.
Est avec nous, évidemment. Parce que vous avez vu, elle nous entraîne dans l'intimité des grandes secondes.
Ah oui, je commence à le savoir.
Bah écoutez, messieurs, bonjour.
Bonjour,
non seulement
madame.
Ça, mais aujourd'hui je serai particulièrement vigilante parce que le gratin dauphinois, c'est ma région. Donc en effet, ne vous avisez pas, Olivier, d'y mettre du gruyère râpé parce que là vous aurez affaire.
Mais vous aimez surtout fréquenter le gratin. Et donc,
alors là, gratin, crème
gratin.
De la crème, parce que vous allez évoquer des monstres qui n'ont pas existé. Mais moi, je vais évoquer un véritable monstre, un père qui tua son propre fils, hein, sa cour quand même pas les rues au cours de l'histoire, parce que la plupart du temps, des rois qui veulent se débarrasser de leur fils le font faire par des sbires, mais celui dont je vais vous parler, Ivan le Terrible, lui, tua de ses propres mains son fils préféré. Donc rendez-vous tout à l'heure avec Ivan le Terrible.
On a hâte de rencontrer ce charmant Ivan.
Mais nous avons David avec nous.
Ah, beaucoup plus charmant, beaucoup plus doux.
Oui, et aujourd'hui,
Estelle Lopez, bonjour.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler, vous savez, c'est des trucs chez l'opticien pour savoir les lettres écrites, pour savoir si on a une bonne vue ou pas. On appelle des tableaux optométriques.
Ah, et d'où ça vient?
Eh ben voilà, ben on le saura.
Est-ce que ça vient de... Genre, est-ce que dans l'Antiquité, ils avaient déjà ça?
Non.
Ah non, non. Est-ce qu'au Moyen-Âge, ils avaient déjà
est-ce
ça?
Est-ce que l'ordre a varié, l'ordre des lettres?
Non, l'ordre
n'a pas
varié.
Parce que moi, je l'ai appris par cœur, comme ça, on peut tromper.
Exactement, on peut tricher.
Il est retort. Et puis, chers auditeurs, vous ferez quoi vers 5h-10?
Moi, je mangerai un ramen.
Non, alors les gens normaux n'ayant pas un estomac à la place du cerveau, eux écouteront Burn to be Alive, notre quiz de la mort spécial monstre aujourd'hui, évidemment. Stéphane Bern s'y connaît-il mieux en monstre qu'en égyptologie? Nous verrons ça. En attendant, découvrons, tremblant, notre premier monstre de l'histoire, peut-être le plus célèbre aussi. Stéphane nous raconte la créature du docteur Frankenstein.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Comme beaucoup d'entre nous, la créature de Frankenstein vous a traumatisé pendant de nombreuses années. Ses hurlements dans la nuit noire, son physique monstrueux, sa barbarie. Aujourd'hui, Stéphane Bern, c'est lui qui a insisté, prend son courage à deux mains pour nous raconter l'histoire du monstre de Frankenstein.
Oui, venez, n'ayez pas peur. Même vous, Mathieu. Je vous raconte l'histoire de ce premier roman de science-fiction au monde, écrit au début du 19e siècle par une femme, Elle s'appelle Mary Shelley. Elle est la mère de cet être terrifiant. Délicate jeune fille, elle a pourtant donné naissance en 1818 à la créature la plus immonde qu'un livre n'ait jamais portée. Le monstre de Frankenstein. Voici comment le savant fou Victor Frankenstein décrit la créature qu'il a créée à partir de cadavres humains récupérés dans les cimetières avoisinants. Sa peau jaune couvrait à peine l'assemblage des muscles et des artères. Ses cheveux étaient d'un noir de jais, sa chevelure abondante, ses dents d'une blancheur nacrée. Hélas, ces merveilles accentuaient l'horrible contraste qu'offraient ses yeux à queue, presque de la même couleur que les orbites sombres dans lesquelles ils étaient incrustés, ainsi que son teint hâlé et ses lèvres droites et noires. Un sentiment d'horreur et de dégoût m'emplissait le cœur. Le monstre, qui n'aura jamais de nom pendant tout le roman, mesure 8 pieds, soit 2,43 m. Il est balafré de rides, son allure est repoussante, bref, âme sensible, s'abstenir. À peine le mort-vivant s'est-il réveillé que son inventeur regrette déjà son expérience entre science et sorcellerie. Il préfère s'enfuir le plus loin possible. Le père a peur de son fils, son hideuse progéniture. Les différentes adaptations théâtrales, cinématographiques, ont fait du monstre de Frankenstein un être à peine humain, bien souvent demeuré et incapable de ressentir la moindre émotion. Il faut dire que les circonstances de la rédaction de ce livre unique en son genre s'inscrivent dans un contexte très sombre. En 1816, Mary Wollstonecraft Godwin, de son vrai nom, quitte Londres avec sa demi-sœur Claire et surtout son amant Percy Shelley. Direction le continent et plus particulièrement l'air pur de la Suisse. Au début de l'été, ils rejoignent un ami qui marquera à jamais le monde de la littérature mondiale, le célèbre poète Lord Byron. Ils s'installent dans deux maisons autour du lac Léman. Malheureusement pour eux, cet été-là, le temps est maussade et le petit groupe profite rarement de la nature environnante. Mais ces jeunes écrivains, dans la vingtaine, ont l'esprit fertile. Loin de se laisser abattre, ils occupent leur temps libre à des activités peu académiques. Ils lisent, certes, mais des ouvrages plutôt inhabituels, voire terrifiants. Ils dévorent notamment Phantasmagoria, un recueil de nouvelles allemandes sur les fantômes des revenants, des apparitions. Un jour, Lord Byron, l'esprit probablement stimulé par l'opium dont il aime s'enivrer, lance un défi à ses amis. Chacun d'entre nous va écrire une histoire de fantôme. Si Percy Shelley et Lord Byron se lancent presque instantanément dans l'écriture de récits effrayants, Mary, elle, ne parvient pas tout de suite à coucher sur le papier son histoire. Mais à la suite d'un mauvais rêve, elle débute la rédaction de ce qui deviendra l'un des livres les plus célèbres de la littérature. Frankenstein ou le mythe du Prométhée moderne. L'histoire est la suivante. Un savant, Victor Frankenstein, parvient à donner vie à un cadavre d'homme reconstitué de chair morte. Horrifié par le monstre qu'il vient de créer, il préfère l'abandonner. La créature, livrée à elle-même, comprend rapidement qu'il lui sera impossible de mener une existence normale. Rejetée par les humains, elle va tout faire pour se venger de son créateur. Le monstre tue successivement les proches de Victor Frankenstein. Ce roman d'épouvante, Mary Shelley, l'auteur d'à peine 18 ans, ne l'a pas puisé uniquement dans son imagination prolifique. Il faut dire qu'en ce début du 19e siècle, le monde scientifique est en pleine ébullition. Avec les Lumières, l'idée que Dieu serait l'unique créateur est remise en cause et la science gagne de plus en plus d'adeptes. Les parents de Mary font partie de ces penseurs défendant des concepts nouveaux. Son père est un écrivain engagé et sa mère, qu'elle a perdue alors qu'elle n'avait que 10 jours, était une éducatrice et philosophe féministe convaincue. Mary, elle, est notamment fascinée par la découverte de l'électrochimie, la création de la pile par Volta, mais aussi, plus insolite, l'électricité animale de Galvani. Le chercheur avait découvert qu'une cuisse de grenouille morte se contractait lorsqu'elle était en contact avec de l'électricité. Il n'en faut pas plus à Mary Shelley pour transposer cette expérience à un cadavre humain dans son livre « Frankenstein ». Ce que certains ont pendant longtemps pris pour de la littérature de sorcellerie n'est que la continuité du virage scientifique qui anime ce début du 19e siècle. Mais la créature créée de la main d'un homme se transforme en assassin redoutable. Elle tue le frère, le meilleur ami et la fiancée du docteur Frankenstein. Le fils veut faire payer à son père l'horrible existence qu'il est obligé de mener à cause de lui. Ce monstre devient alors le symbole de tous les soulèvements qui, à terme, se révéleront dangereux. Selon leurs opposants. Ainsi, la créature de Frankenstein est comparée aux sans-culottes qui ont renversé la monarchie, aux Irlandais qui refusent la domination anglaise, aux esclaves qui se battent contre les colons. Pour les réactionnaires, ces révolutionnaires sont comme le monstre du roman de Mary Shelley. Ils doivent être anéantis. Depuis sa première édition, d'abord anonyme en 1818, ce roman n'a eu de cesse de faire parler de lui. Une question reste cependant en suspens depuis 2 siècles. Qui, de créateur ou de la créature, est le plus méchant ? En écrivant son roman, Mary Shelley, du haut de ses 18 ans, rédige aussi une critique de la nature humaine. N'oublions pas le titre exact du livre, Frankenstein ou le Prométhée moderne. Mary Shelley a reçu une instruction solide et ne peut s'empêcher de faire une référence à Prométhée. Il peut s'agir du mythe grec, ce héros attaché au mont Caucase qui a transmis le feu sacré aux humains. En punition, un aigle lui dévore chaque jour son foie. Ou alors le mythe latin, le titan façonne l'homme à partir d'argile. Dans tous les cas, Mary Shelley démontre les risques inconsidérés pris par Victor Frankenstein pour assouvir son envie irrépressible de maîtriser le pouvoir de la création. Il commettrait ainsi une première erreur en faisant naître un monstre difforme, inadapté à la vie parmi des humains souvent méchants et cruels. Le savant ferait une deuxième erreur en n'assumant pas ses actes et en délaissant sa progéniture, la laissant survivre seule dans un monde hostile. Pourtant, le monstre du docteur Frankenstein aurait pu connaître le bonheur, car dans le roman, il voit le jour certes laid, déjà adulte, mais il possède également toute la bienveillance et la gentillesse d'un nourrisson. Le fils du savant fou, aussi repoussant soit-il, ne demande qu'une seule chose, aimer et être aimé. Au fil des pages, il prouve sa grandeur d'âme, il sauve une femme de la noyade, il se lie d'amitié avec un aveugle, mais à chaque fois sa laideur glace les humains et le pousse à s'isoler. Lui-même éprouve un profond dégoût en découvrant son reflet dans une mare, il tente bien de demander à son père de lui fabriquer une épouse qui saurait l'aimer, mais le savant se défile et préfère détruire cet ultime espoir. Victor Frankenstein l'a presque trop bien réussi. Il a peur que cette nouvelle race plus forte, plus intelligente, finisse par terrasser les humains traditionnels comme l'Homo sapiens a remplacé l'homme de Néandertal. Son fils, sa créature immonde, est donc voué à mourir seul, rejeté par tous. Jean-Jacques Rousseau, si cher à Mary Shelley, n'avait pas tort lorsqu'il écrivait « L'homme est naturellement bon, c'est la société qui le corrompt ».
Europe 1. Historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de la créature de Frankenstein, nous sommes avec le directeur de la rédaction de Lire, le magazine littéraire. Bonjour Baptiste Liger.
Bonjour.
Baptiste Liger, vous consacrez un hors-série à Frankenstein et les monstres célèbres de la littérature. Il paraît en kiosque aujourd'hui même. De tous les monstres enfantés par la littérature, la créature du docteur Frankenstein est bien la plus célèbre. Comment un roman plutôt gothique, daté de 1818, peut-il encore être si actuel et connu de tous, même des plus jeunes?
S'il a réussi à passer toutes ces années, je crois qu'il y a fondamentalement deux raisons. D'un côté, il y a toute cette descendance, notamment le cinéma qui l'a popularisé, avec des personnages très iconiques et qui ont été déclinés avec les années de très nombreuses fois. Donc l'image de Boris Karloff, elle a marqué et on la connaît. Et surtout, on le découvre en général à l'adolescence. Ça nous marque. Aussi, ce qu'on découvre en relisant le roman, mais c'est qu'il est d'une richesse incroyable, qu'il aborde énormément de thèmes extrêmement universels, on va y revenir, et voilà pourquoi, à mon avis, c'est une œuvre qui dure et qui marque à ce point.
Tout part d'un défi, l'a raconté Stéphane, avec Lord Byron dans cette maison en Suisse. Combien de temps il lui a fallu à Mary Shelley pour écrire en fait la totalité du roman? Ça s'est fait progressivement ou tout a jailli de sa plume?
Tout a jailli, même s'il existe aussi une deuxième version qui a été faite quelques années plus tard, parce que le livre est sorti en Angleterre en 1918, et ensuite elle l'a un petit peu complexifié, elle a changé certaines scènes, mais bon, l'essentiel est déjà là, dans la version publiée en 1818, il faut le savoir, à titre anonyme et un tirage très confidentiel de, je crois, quelques centaines d'exemplaires.
Ce qui est fou, c'est que, au fond, Frankenstein est assez universel, puisque chaque époque s'est projetée sur cette créature immonde et monstrueuse. Je parlais des sans-culottes, des esclaves. Finalement, cette créature, c'est le révolutionnaire, c'est l'opprimé ou peut-être le rejeté qui est en chacun de nous.
Ah, je vois le réflexe de l'historien, Stéphane, en vous, qui se réveille en évoquant évidemment la question révolutionnaire. Mais en effet, d'une certaine manière, cette créature, c'est celui qui est créé par l'autre, c'est celui qui est dominé et qui veut se révolter, en effet. Mais là encore, cette histoire, on peut y projeter tout ce qu'on souhaite, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on désire d'une certaine manière. Et à ce titre, oui, on peut y voir une parabole politique évidente, oui.
Ce qui est intéressant dans le personnage de Frankenstein, c'est aussi cette ambiguïté. C'est un monstre, il est hideux, mais il a cette humanité en lui. Sans ça, le roman n'aurait pas eu de succès. C'est ça qui est intéressant.
Mais oui, parce que fondamentalement, cette humanité, c'est la nôtre. Le monstre, il est humain. Enfin, je veux dire, c'est indissociable l'un de l'autre. C'est parce qu'il y a une humanité qu'il y a une définition du monstre à proprement parler. Qu'est-ce que c'est qu'un monstre ? Alors là, la définition est vraiment très large et elle peut être très subjective.
On est tous le monstre de quelqu'un, Stéphane.
Oui.
Vous voulez dire quoi, là ?
Non, c'est pas un message que je vous lance.
C'est
une réflexion comme
monstre.
Ça. Pas du tout. Ah, peut-être, je sais votre chose.
On va continuer.
Ça ne me regarde pas.
On va continuer de parler de nos sacrés monstres de cet après-midi et de la créature de Frankenstein en particulier avec notre invité Baptiste Liget sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
De sacrés monstres, c'est notre thématique cet après-midi dans Historiquement Vôtre. Avec Stéphane, on vous parle de la créature de Frankenstein avec notre invité Baptiste Liget, directeur de la rédaction de Lire, le magazine littéraire. Alors, dans votre hors-série spéciale monstres, Frankenstein et sa créature occupent évidemment une large place. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter en vous intéressant à ce personnage à une époque où les peurs ont changé? Est-ce qu'il est toujours d'actualité?
Plus que jamais, d'une certaine manière. Là, vous voyez, par exemple, la question des vaccins. Bah, c'est la question de Frankenstein. Bah, évidemment. Vous voyez, cette question de toucher à l'ADN humain, à toucher à la création de Dieu, d'une certaine manière. Bah, alors ça, on en est pleinement dans Frankenstein, clairement. La question du deuil, par exemple, qui est au cœur de Frankenstein. D'ailleurs, encore une fois, il faut savoir qu'elle a perdu un enfant très peu de temps avant l'écriture du livre. Sa mère est morte quelques jours après sa naissance. Enfin, pour Marie Shelley, la question du deuil est essentielle. Ça aussi, quand on perd un être cher, et voilà, il y a beaucoup de décès ces derniers temps qui peuvent nous toucher particulièrement, dans ce contexte très particulier, ben voilà, on est dans Frankenstein. Tout ça est présent et vous voilà pourquoi. Ben voilà, ça nous parle, tout simplement.
Dans votre dossier de Lire, vous parlez de la récente mise au point de ciseaux génétiques permettant de découper des brins d'ADN de ferme Frankenstein où on peut déguster du saumon transgénique. C'est amusant, mais surtout très flippant, en fait.
Bah oui, clairement, mais bon, faut savoir d'ailleurs que les expériences de tentatives de réanimation par l'électricité, ça a eu lieu, au début du 19e siècle. Ouais. Ça aussi, c'est bel et bien réel. Ce qu'on trouve dans nos assiettes est génétiquement modifié. On veut recréer de la vie. On a vu il y a quelques temps, vous voyez ces steaks que l'on fait mûrir d'une certaine manière et qui sont complètement artificiels. Là encore, rien n'a changé depuis l'époque de Marie Shelley.
Tout ce qui mange des graines aussi, ça, c'est même tout pousse, tout vit, quoi. Mais c'est un peu terrifiant, c'est-à-dire que c'est en cela que aussi Frankenstein est universel et intemporel. C'est que en réalité, on peut le coller à toutes les époques et à tout ce qu'on vit.
Eh ben oui, c'est bien. C'est bien ça qu'on reconnaît les œuvres, qu'elles soient littéraires, dramatiques, cinématographiques, enfin voilà, c'est le critère presque essentiel, cette capacité à s'adapter à toutes les époques.
Frankenstein ou la Prométhée moderne,
le Prométhée moderne,
effectivement. C'est important parce que c'est aussi l'histoire d'un scientifique jusqu'au boutiste qui, en voulant donner la vie à partir de chair morte, rivalise quelque part avec Dieu. Ce bras de fer science-religion, est-ce que c'est ce que Marie Shelley voulait montrer à son époque, quand on revient à l'époque?
Bah, on est en pleine période romantique. On est dans l'affirmation de l'individu à proprement parler, où on défie Dieu, d'une certaine manière. On peut dire on défie le clergé. Ça aussi, ça peut être présent. Mais bien entendu, et là aussi, aujourd'hui, à l'heure de certains créationnistes, de remise en cause de données scientifiques par la religion, en quelque sorte, le livre correspond à ce siècle et à nos obsessions d'aujourd'hui.
Oui. Mais ce qui est merveilleux, je trouve, dans le livre, c'est de replacer Marie Shelley dans son temps. Et dans son temps, il y a évidemment, elle était pétrie des nouvelles sciences, et de ses pouvoirs infinis, et ça préfigure au fond, par exemple la robotique, c'est ça, l'intelligence artificielle, on y est. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'elle y a réfléchi déjà en 1818, c'est très fort.
Parce que c'est une femme très érudite, qui a un vrai puits de science, qui a été élevée vraiment par son père dans le culte de toutes les formes de connaissances, qu'elles soient littéraires, philosophiques, scientifiques. On peut aussi voir le livre, aujourd'hui, rétrospectivement, comme l'affirmation d'une femme qui veut défier des hommes. Encore une fois, ce savant fou, d'une certaine manière, qui veut recréer la vie, c'est aussi quelqu'un qui veut affirmer son pouvoir.
Et puis le monstre, c'était aussi Lord Byron.
Ah oh bah oui, oui, hein. Qui n'a pas toujours été très sympathique avec elle, c'est
voilà.
Moins qu'on puisse dire.
Ah, ça, qu'est-ce qui s'est passé entre eux?
Aujourd'hui, je vais vous dire,
oui,
avec le hashtag MeToo, je pense que Lord Byron,
il serait
en tôle.
Il serait ah, oui. Carrément.
Par chance, il est mort pendant le siège de Missolonghi pour la libération de la Grèce, mais il serait en tôle.
Frankenstein et son monstre ont eu de nombreux doubles. Ça va de la transposition du mythe au féminin au cinéma dans Frankenhooker de Frank Hennenlotter et un épisode aussi de Scooby-Doo, Aventure en Transylvanie. C'est qui le Franky qui vous fait le plus marrer?
Oh bah clairement, bon, il existe Eddie Mitchell dans Frankenstein 90, mais mon préféré malgré tout, c'est pas une blague, Aldo Machione. Oui,
ah,
oui,
Aldo
Machione a joué la créature de Frankenstein dans Plus moche que Frankenstein tumeur. Oui, c'est le titre
plus
français.
Plus moche que Frankenstein.
En italien, c'est mieux, c'est Frankenstein à l'italiana. Enfin bon, tout de suite, c'est un peu mieux. Imaginez cette créature à qui on n'a pas, enfin qu'on n'a pas doté d'un gros cerveau, mais d'une autre partie de l'anatomie démesurée. Tout ça avec Aldo Machione dans un film italien des années 70.
J'adorais quand Aldo Machione il remet comme ça les...
Oui, mais Aldo Machione en Frankenstein avec un outil démesuré, on a envie de voir aussi.
À voir avec des amis, avec quelques verres ou un peu plus de boissons alcoolisées.
Enfin, voilà. Il s'appelle Rocco Siffredi. Alors bon, moi j'aime bien aussi le Frankenstein chanté par France Gall et, et cousu par Serge Gainsbourg, 1975.
Fallait un cerveau aussi grand, Kenstein, pour en greffer un autre à Frankenstein, faire de plusieurs cadavres en un instant. Rassembler, coudre ensemble les morceaux, le nez, les yeux, les lèvres et la peau.
C'est pas mal, parce que, au fond, c'est une vision de Frankenstein comme un être supérieur qui était capable, justement, qui avait un cerveau. Aussi grand qu'Einstein.
Et un cœur, Stéphane, ne l'oublions pas.
Et un cœur, oui.
Et on peut y voir aussi la métaphore de Gainsbourg avec ses chanteuses.
Ah oui, c'est vrai.
On peut voir de l'allégorie partout, je vous assure, hein, vraiment.
C'est passionnant. Baptiste Liget, vous restez avec nous jusqu'à 17h,
si
puisqu'on va jouer avec des monstres dans le quiz.
Oui.
Quand je parle de monstres, je ne parle évidemment pas des concurrents, qui sont pourtant des monstres de culture. C'est Stéphane Bern et Clémentine. Vous pourrez les aider ou les piéger à votre guise.
Ici, Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours, dès 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans la raconter. Et elle nous raconte des histoires qui font peur, hein, je vous assure, qui font peur, surtout aux non-initiés. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez l'histoire de votre personnage préféré de l'histoire, je sais. C'est un monstre, un vrai. Yvan le Terrible.
Yvan le Terrible, ah oui. Mon personnage préféré, non, j'irai peut-être pas jusque-là tout de même, mais c'est vrai que souvent les monstres sont pleins de paradoxes, parce que voyez-vous, Yvan le Terrible, donc qui est né en 1530 et mort en 1584, il a été le premier grand prince de Moscou à prendre le titre de tsar. Et c'est à la fois un épouvantable personnage, mais aussi un homme capable du meilleur, voyez, hein, l'homme des grands inexplicables, et même les pires monstres peuvent avoir des moments où ils sont pas mal. Et ça vaut mieux parce qu'il a régné pendant 37 ans. Donc il faut s'imaginer ce que c'est que d'avoir quand même un pervers à la tête d'un royaume pendant 37 ans. Je peux vous dire que votre Vlad l'Empaleur peut aller se rhabiller à côté d'Yvan le Terrible.
Mais il était toujours habillé.
Ouais, parce qu'Yvan était vraiment un pervers, aux sautes d'humeur, absolument imprévisible et capable du pire. Et le plus terrible, c'est que son propre fils, qui était l'héritier du trône et dont il se sentait très proche, avait les mêmes travers. Henri Troya a très bien décrit ce chic garçon, hein, Yvan, fils d'Yvan, tel qu'il se présente en 1581. C'est alors un jeune homme de 27 ans, à l'intelligence vive, violent comme son père. Ensemble, père et fils participent à des orgies nocturnes et à des séances de torture. À travers les expériences de stupre et de cruauté, écrit Henri Troya, Yvan le Terrible voulait en faire un autre lui-même. Alors imaginez ces deux hommes, père et fils, qu'est-ce qu'ils aiment bien quand ils ont un petit et peu de temps à perdre?
Oh non.
Eh ben, ils font rôtir leurs ennemis à la broche.
Ils les mangent?
Alors, je pense pas qu'il les mange, mais peut-être qu'une fois... Alors, parce qu'il a fait faire Yvan le Terrible d'immenses poils à frire, et donc il fait sauter ses ennemis comme des patates
mais
sautées.
Non.
Mais
Je sais pas si t'en es Clémentine.
Bah, écoute, excusez-moi, possible. C'est la vérité historique. Hein. Il les fait. Ce qu'il aime bien aussi, c'est faire dévorer ses ennemis par des ours. Et puis, il organise des décapitations massives à la chaîne. Et comme en fait, les deux se lassent assez vite, ils sont en permanence à la recherche de toute innovation susceptible de venir enrichir leur registre des tortures possibles. Et vraiment, ils raffolent de ces deux très, très, très grands pervers qui aiment le spectacle de la souffrance humaine. Ils raffolent de ces séances. Ils participent donc tous les deux, hein, en se tapant sur l'épaule. Viens, on va faire sauter quelques ennemis. Mais le problème, c'est qu'avec le temps, Yvan Père devient de plus en plus paranoïaque, de plus en plus malade. On peut plus rien lui dire. Et un jour, son fils a le malheur de lui reprocher sa pusillanimité dans la guerre qu'il mène à la Pologne. Et Yvan en déduit que son fils complote contre lui et veut le détrôner. Bon, assez classique entre grands malades au pouvoir. Et dans un premier temps, plutôt qu'à son fils, Yvan s'en prend à sa belle-fille, qui est alors enceinte. Alors, il va la ruer de coups, façon un peu, vous savez, de Néron avec Popée, là, il la croise dans un couloir, elle est enceinte, il lui tape dessus. Eh ben, Yvan fait la même chose avec sa belle-fille, pour une raison totalement futile. Il constate qu'au lieu des trois robes traditionnelles que doit porter toute femme enceinte, elle n'en porte qu'une, vous rendez compte le drame. Donc, considérant cette tenue comme indécente, il se jette sur sa belle-fille, la rue de coups, et ce qui fait que la malheureuse Bru fait une fausse couche. Alors, vous imaginez le désespoir du Tsarevitch qui vient crier son indignation chez son papa. Très mauvaise idée, parce que le Tsar ne supporte pas que son autorité soit mise en cause, et du coup, envahi d'une rage absolument démente, Yvan bondit de son siège, se saisit de son long bâton ferré et il frappe son fils au hasard sur les épaules, sur la tête. Il frappe. Il est comme possédé par sa propre violence. Et tout d'un coup, hirsute, il demeure interdit, son pieu à la main, frappé de stupeur. Il vient de tuer son fils, il se précipite sur son corps, il le couvre de baisers, il tente d'arrêter le sang en mettant sa main sur la plaie de son fils. Hélas, le Tsarevitch est très mal en point et il meurt le 19 novembre 1581, figurez-vous quand même, en baisant les mains de son papa. Et en murmurant « Je meurs comme ton fils dévoué et le plus soumis de tes sujets ». Vous voyez Stéphane, chez les terribles, bon, on est pervers peut-être, mais enfin on n'est quand même pas du genre rancunier.
C'est fou comme tout ça vous amuse. Alors oui, on a quand même parlé de faire rissoler des gens. Et vous Clémentine, ça a l'air vraiment de vous empire d'excitation.
Non, parce que c'est tragique. Non, mais on va mieux vous en rire qu'en pleurer. En tout cas, le père, là, il reste assis plusieurs jours devant le cadavre de son fils aîné. Il refuse de manger. Pendant l'office, il pousse des cris déchirants tout en se frappant la tête contre le cercueil de son fils. Et alors, évidemment, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand on est au désespoir? On va essayer de faire torturer quelques soldats. Voilà, il va faire torturer. Oui, puis il fait torturer son propre beau-père pour se changer un peu les idées. Mais enfin, c'est à peine s'il regarde, il n'a plus goût à rien. Si vous voulez torturer, comment voulez-vous que ça l'amuse si son fils n'est plus là pour jouir avec lui du spectacle?
Il n'en avait pas d'autre?
Ben... Oui, mais enfin, c'était pas son chouchou. Alors du coup, rongé de remords, il va faire des dons démesurés à tous les couvents dont il a martyrisé les moines, afin qu'on y dise des prières pour le salut de son âme. Et puis il essaie de faire une liste de tous ceux qu'il a tués pour pouvoir expier, faire dire des prières pour gagner.
Après ça, il n'a plus jamais tué et fait rissoler des gens à la casserole?
Bien sûr que si, il a repris après, mais parce que il a repris pourquoi? Parce que il s'est dit finalement, Dieu aussi est comptable du sang de son enfant, le Christ. Est-ce que Dieu lui-même n'a pas laissé Jésus périr sur la croix? Ben finalement, tous deux sont des assassins de leurs fils respectifs. Hein, Dieu et le Tsar étaient faits pour se comprendre. C'est comme ça, en tout cas, qu'a fini par avaler la pilule, j'allais dire, Yvan le Terrible, en se disant après tout, Dieu aussi a zigouillé son fils. En tout cas, le Tsarevitch qui lui est mort dans les bras en disant « Je mors comme ton fils dévoué », il aurait pu méditer utilement cette phrase de Jean-Jacques Perroni, « J'ai pas besoin d'ennemis, j'ai de la famille hein. ». Avouez que chez les terribles, entre
les... Non, c'est pas le nom de famille, en fait.
Le terrible. Mais je ne sais pas comment ça se dit en russe, le terrible.
Chez les terribles. Grozny. Ivan Grozny. Ça,
terrible.
Il vous a dû en erreur.
Mais non, ne l'écoutez pas. C'est vrai, c'est comme ça qu'on dit.
Donc ça, c'est quand même un monstre, un vrai, si vous voulez. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des
très sympathique, en tout cas. Merci beaucoup. C'était passionnant,
Clémentine. C'était passionnant, on a hâte de l'inviter, cet Yvan. Merci beaucoup, Clémentine. Vous restez avec nous. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, disait le poète. Eh oui, à ce stade de la saison, Stéphane Bern doit être sacrément fort. Rendez-vous dans quelques instants pour le quiz.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Machiavel, là-haut, doit être fier de lui. Lecteur assidu du Prince, Stéphane Bern ne recule devant aucun procédé pour tenter de détrôner enfin Clémentine Portier-Kaltenbach dans l'épreuve du quiz. Pot de vin, promesse d'augmentation, dernièrement il est allé jusqu'à essayer de lui refourguer gratuitement un gigolo.
Vous prendrez bien un petit amant ?
Il n'a aucune morale, mais cela lui permettra-t-il de l'emporter enfin ? Jouons ensemble à Bern to be alive. Toujours avec nous, je le précise, Baptiste Liget, directeur de la rédaction de Lire, le magazine littéraire, qui consacre un hors-série aux monstres. Ça tombe bien, notre thème du jour, c'est les monstres de l'histoire. Baptiste, vous avez le droit d'aider nos camarades ou de les induire en erreur, ce qui est encore plus vicieux. J'aimerais beaucoup que vous fassiez ça. C'est comme vous préférez. Alors c'est parti, la première question est toujours pour Stéphane, il en a décidé ainsi.
Mais non, c'est vous qui avez décidé.
Effectivement, il a tous les deux. Stéphane, première question. Pour débuter ce quiz spécial monstre, partons pour le Japon. Où on en parle depuis le Moyen-Âge, c'est un yokai. Comprenez, un esprit au pouvoir magique. Le tanuki prend l'apparence d'un raccoon, une sorte de raton laveur. Petite particularité, ses testicules lui servent d'armes, voire de parachute ou de filet de pêche. Est-ce que ce monstre existe dans le folklore japonais ou il n'existe que dans mon imagination?
Vous avez une idée, Baptiste?
Il faut savoir que l'imaginaire japonais a été extrêmement riche depuis notamment le Moyen-Âge, donc c'est tout à fait possible, oui.
Mais enfin, vous voyez, des testicules en forme de parachute, enfin, qui servent
qui font
de parachute,
à la fois armes et parachute.
Parachute, ça, j'ai du mal quand même. Parce que...
Non, mais allez savoir, encore une fois, dans des représentations et dans la manière de présenter, il peut y avoir quelques truqueries, moi je vous dis. Mais bon, bref, en tout cas, ça n'est pas impossible par rapport à l'imaginaire nippon de cette période.
Bah écoutez, je vais suivre les recommandations de Baptiste, je vais dire que c'est vrai.
Vous avez gagné.
Baptiste, revenez quand vous voulez. Pour une fois, grâce à vous, Stéphane répond juste. Il existe dans le folklore japonais, il existe de très belles estampes de 1840 dessinées par Kanuyoshi, où l'on voit ces tanuki donc qui peuvent gonfler leurs testicules à volonté. Imaginez ce que ça peut faire de gonfler ses testicules à volonté. Petit conseil cinéma, aussi bien pour les petits que pour les grands, regardez le film manga Pompoko qui fait la part belle aux tanuki.
Et on voit tout ?
J'imagine que ce n'est pas une pratique, enfin c'est juste, elle gonfle, c'est mignon, si vous voulez. On ne sait pas forcément que ce sont les testicules, peut-être, je pense, pour les enfants, je ne sais pas. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Quand on étudie les monstres légendaires à travers l'histoire, il y a deux sortes de disciplines. La cacozoologie, l'étude des monstres méchants, et la orayazoologie, l'étude des monstres gentils. Vrai ou faux ?
Je n'y connais rien du tout.
Notre invité, oui.
Je trouve que si...
Ah oui, mais
si...
sur ces termes, en termes strictement étymologiques, oulala, allez voir.
Oui. Moi, je trouve que ça serait une distinction intéressante qui me paraît mériter d'être établie. Alors, est-ce que ce sont dans ces termes-là ? Je l'ignore totalement. Je répondrai oui, qu'il y a une distinction entre les monstres méchants et gentils, une typologie des monstres méchants et gentils, oui. Alors, est-ce que ça a ces noms ? Ça, je l'ignore. Je réponds oui.
Vous avez perdu.
Étonnamment, la cacozoologie et l'orayazoologie n'existent pas. Il existe, en revanche, la cryptozoologie. Qu'est-ce que la cryptozoologie ? Vous savez ?
Quelques souvenirs, mais bon, voilà, j'aime mieux entendre votre définition précise.
Eh bien, c'est l'étude des animaux qui n'existent pas.
Oui.
Voilà.
Oui, crypto. Alors, comme les crypto-communistes.
Oui, c'est ça, d'une certaine manière. Ouais.
Vous voyez des bolcheviks partout.
Mais ce ne sont pas des monstres.
Ce ne sont pas des monstres, rappelons-le à nos auditeurs. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Le 2 décembre 1983, c'est un frisson planétaire puisque c'est la première fois que MTV diffuse le clip de Thriller réalisé par John Landis. Monstres, zombies, cimetières. Eh bien, il existe une maquette de cette chanson où Michael Jackson ne chante pas au refrain Thriller, mais Tiger. Vrai ou faux ? Vous avez compris le sens de ma question. Au lieu de s'exclamer Thriller, au moment où on doit dire Thriller dans la chanson, la chanson a été écrite différemment et Michael Jackson disait Tiger. Tiger!
Tiger Night.
Je sais pas mal.
Ça veut dire la nuit du tigre?
Oui. Ou est-ce que Thriller a toujours été Thriller? Vrai ou faux?
Non, Thriller, c'est Thriller.
Thriller, c'est Thriller. C'est, vous aviez quel âge quand Thriller est sorti en 1983?
20 ans.
Vous avez dû vous déhancher là-dessus, alors. Ne mentez pas, Stéphane. Vous n'avez jamais dansé sur Michael Jackson.
Bah, je suis sûr que si. Je sais pas bien faire le moonwalk, mais quand même.
Ça serait un beau défi, ça, d'ici la fin de la saison.
On devrait.
Que vous fassiez un moonwalk.
Écoutez, je dirais c'est faux.
Baptiste, d'après vous, c'est faux ou c'est vrai?
Moi, j'aurais tendance à dire que c'est faux.
Vous avez gagné.
Vous avez gagné, mais pas vraiment. J'ai envie de vous attribuer un demi-point.
Si vous protestez,
un quart de point.
Ça, c'est la dictature.
Oui.
C'est-à-dire, c'est pas
ma conception d'un bon gouvernement. Oui.
Eh ben, écoutez, je vous félicite pas. Parce que on s'est battu, mes ancêtres sont battus.
Vos ancêtres se sont battus.
Pour la liberté.
Est-ce que votre ancêtre, c'est vraiment Robespierre, comme c'est écrit sur Wikipédia, ou est-ce qu'ils ont commis une erreur par rapport à la pub que vous aviez fait où vous découvriez votre ancêtre, c'était Robespierre?
Non, arrêtez. Ils pensent vraiment que c'est mon ancêtre.
Évidemment, c'était une bêtise. C'est vrai, je vous assure. L'autre jour, je regardais la page Wikipédia de Stéphane Bern, comme je le fais souvent pour écrire des choses sur vous. Eh bien, vous avez écrit au premier degré sur la page Wikipédia de Stéphane Bern que vous êtes un descendant de Robespierre. J'ai dû voir la pub où vous faites la blague et donc on pense que vous descendez de Robespierre, Stéphane. Donc vous infirmez.
Oui.
Alors. Vous avez
et l'autre qui glousse.
Une bonne réponse à cette question. Et Michael Jackson n'a pas dit Tiger dans la chanson Thriller. Par contre, c'était autre chose à la base, Thriller. Ça ne s'appelait pas Thriller. Ça s'appelait Starlight. Starlight, Starlight Sun. Et finalement, ils ont changé. Et ça a été l'album, je crois, le plus vendu de tous les temps. Absolument. Question numéro 4 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Attention, parce que là, beaucoup de bonnes réponses aujourd'hui. C'est certainement la présence de Baptiste. Parce que d'habitude, je peux vous dire que ça ne vole pas très haut.
Il a toujours répondu faux, là, pour le moment.
C'est vrai. Dans la mythologie grecque, Hercule se bat contre l'hydre, un monstre à 9 têtes. Petit problème, quand on lui coupe une tête, deux autres repoussent. Eh bien, à l'état naturel, l'hydre existe. Vrai ou faux?
Oui, je crois que oui.
L'hydre existerait, selon Clémentine Portier-Kaltenbach. Découvrons la réponse.
Vous avez gagné.
Mais oui, bravo. C'est un polype d'eau douce, également appelé hydre. Les généticiens la considèrent comme immortelle. Alors ça, c'est incroyable. Les généticiens la considèrent comme immortelle grâce à ses capacités régénératrices. Elle peut faire 15 mm, mais si vous la touchez, elle se rétracte et n'en fait plus que 2. J'en connais d'autres. Elle pratique une reproduction asexuée par bourgeonnement. Écoutez Stéphane, c'est intéressant, une manière de reproduction, parce que pensez bêtement à la reproduction des mammifères, mais ça c'est intéressant. Si la nourriture est abondante et la température de l'eau adéquate, une excroissance se forme puis se détache pour vivre ensuite sa vie de façon autonome. Une partie de vous irait voguer et féconder le monde, finalement. Question numéro 5, car nous sommes...
C'est inutile, puisque j'ai gagné.
Pas du tout, puisque vous aviez un quart de point. Et que je décrète que finalement, ça ne compte pas. Et que nous allons faire la question 5. Car oui, ce jeu est une dictature. Alors, attention, les amis, c'est une question de rapidité. Dans les films d'horreur, les monstres peuvent vraiment prendre des formes diverses et variées. Le danger peut venir de n'importe où et surtout de n'importe quoi. Quel film d'horreur n'a pas existé? Rubber, un road movie d'horreur où le monstre tueur est un pneu. Deathbed, un film où l'assassin est un lit. Ping Pong Blood, le tueur est un joueur de ping-pong qui commet des meurtres avec sa petite balle blanche. Ou Killer Come Dumb, où le serial killer est un préservatif avec des dents.
Moi, j'ai le premier.
Moi, je dirais le dernier.
Rubber, vous, Baptiste,
Rubber, sûr, existe.
Oui.
C'est un film, de Quentin Dupieux, si ma mémoire est bonne. Alors, j'aurais tendance à dire peut-être Ping Pong Blood, peut-être.
Ping Pong Blood, vous l'avez pas vu?
Celui-là, non.
C'était énorme.
Moi, c'est le préservatif.
Vous, c'est le préservatif, vous pensez pas qu'il existe?
Non.
Et vous, Clémentine, vous avez dit quoi, le premier?
J'ai dit le premier, moi, je sais même
pas. Vous avez dit le premier. Avec Stéphane, vous avez tous les deux perdu. C'est notre invité qui remporte le quiz. Et oui,
c'était un grand chelem, je dois dire.
Effectivement, grand chelem, Ping Pong Blood, le tueur, joueur de ping-pong qui commet des meurtres avec sa petite balle blanche, ça n'a pas existé.
Ouais, je le voyais bien.
En revanche, Deathbed est sorti en 77, un film de Georges Barry qui n'a fait qu'un film d'ailleurs. Rubber est un film de Quentin Dupieux, réalisateur français assez renommé tout de même.
Il aurait dû faire le film sur le lit.
Oh!
Oh là là! Oh là là!
Où elle vient de loin, celle-là?
Coupez tout! Interruption des programmes. Killer Condom. Ça existe. Stéphane, vous l'avez raté, Killer Condom.
Oui, parce que...
Il est sorti en 96 pourtant. C'est à l'époque où vous étiez en pleine... Hein, hein. Ah, c'est l'époque où vous regardez ce genre de film. C'est l'histoire, tenez-vous bien, d'un inspecteur de police gay qui enquête sur un préservatif serial killer. Alors qu'il s'est lui-même arraché le testicule droit. Il s'est fait arracher le testicule droit par la créature. Ça, c'est un film, ça, c'est un monstre auquel on aurait pu consacrer un portrait.
Oh, non, peut, si vous aimez ce genre de film, on peut vous recommander L'attaque de la moustache géante qui existe.
Ah, oui.
Non, ça, c'est le retour.
Ah, c'est tomateuse.
Ce sont les tomates tueuses. Il y a quelques aberrations cinématographiques ou Sharknado, vous savez, les.
Ah, ça, on adore Sharknado.
Les requins qui volent, oui, oui.
Il y a là, dans le dernier, c'est les requins dans l'Himalaya. Mmh. C'est passionnant. Ils arrivent, ils sont dans des nuages et ils tombent. Ils sont montés dans les nuages et hop, ils redescendent sur l'Himalaya et ils tuent des alpinistes. C'est fabuleux, l'inventivité des scénaristes. Et en tout cas, une fois de plus, défaite de Stéphane, défaite de Clémentine et victoire de l'invité.
Oui. Eh ben voilà.
Et c'est magnifique.
Mais qu'est-ce qu'on gagne, dites-moi. Enfin voilà,
vous gagnez le droit de revenir.
Ah bah ça, c'est sympathique, merci.
Oh là là, merci en tout cas, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Pour être meilleur que Stéphane et Clémentine et tout connaître sur les monstres, je rappelle évidemment à nos auditeurs le dernier numéro hors série de Lire, le magazine littéraire qui vient tout juste de paraître, consacré à Frankenstein et les monstres célèbres de la littérature. Et ils sont nombreux, le diable, la momie de Théophile Gautier, la sorcière, l'animal géant, le monstre à visage humain. Malheureusement, pas le préservatif tueur. Ça manque un peu au dossier de Lire.
Mais il y a le Mathieu.
Mais il y a le Mathieu.
Et moi, je connais un monstre à visage humain.
Non, je vous en prie, Stéphane. Je vous en prie, Stéphane. Je suis comme le fils d'Ivan le Terrible. Je vous serai fidèle jusqu'au bout. Merci surtout, Baptiste Liger. Donc, je vous conseille Lire le magazine littéraire, le dossier spécial sur les monstres célèbres de la littérature.
Merci.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur d'Historiquement vôtre, la plus rock des émissions d'histoire présentées par le plus rock des animateurs radio.
Oh yeah.
Stéphane m'a l'air chaud pour une deuxième heure dédiée aujourd'hui au sacré monstre de l'histoire. Il est super content parce qu'il va pouvoir faire l'accent qui tient pas mal, l'accent roumain.
Oui, après la créature du Dr Frankenstein, je vais vous raconter Dracula et la véritable histoire du véritable conte qui l'a inspiré. Avouez que c'est flippant, Mathieu.
Certes, Stéphane, ce rire est angoissant, mais pas autant que le vôtre quand vous avez bu. Après cette avalanche de frissons, je vous parlerai pour ma part non pas d'un monstre sacré, mais d'un sacré monstre, Shrek. Un ogre qui ne pense qu'à s'en mettre plein la lampe. Toute ressemblance avec un personnage réel serait fortuite. On salue Olivier Pouls. Olivier.
Je ne vois pas de quoi vous voulez parler.
Le gratin dauphinois est une de vos passions gâchées.
Quel point commun y a-t-il entre les pâtes à la carbonara, la quiche lorraine et le gratin dauphinois?
On ne met pas de fromage dedans.
Non, ce sont trois recettes qu'on a l'impression qu'on connaît, qu'on fait avec des erreurs.
Putain, je pensais vraiment avoir la bonne réponse là.
Non, parce que dans les pâtes carbo, on met du fromage. Oui. Pas du gruyère. Hein.
Ah oui, pas du gruyère. Du parmesan. Gruyère dans les pâtes de toute façon.
Voilà. Mais ce sont trois recettes, vous savez, qu'on a un peu réadaptées. On croit qu'on connaît. En fait, on commet des petites impairs. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon. Mais pour les faire dans les règles de l'art, je vous dirai ce qu'il en est.
Il a 10 sur 10 aux deux yeux, m'a-t-on dit. Et pourtant, il nous emmène aujourd'hui chez l'opticien.
Tout à fait.
Chez l'ophtalmo, plutôt.
Les origines du tableau optométrique, qui est cette feuille sur laquelle il y a des lettres de taille croissante qui sont écrites et qu'il faut déchiffrer pour savoir si vous voyez bien ou pas.
C'est plutôt la médecine du travail, ça aussi. Hein.
Ouais, aussi, bien sûr. Oui.
Ça me fait penser qu'on a fait longtemps que la médecine du travail nous a pas appelé à Europe 1.
Petit message.
Petit message, effectivement. J'aimerais bien un petit contrôle orthoptique.
Ouais.
Et vous, Stéphane, vous voyez bien?
Non,
vous voyez rien du tout. Si vous enlevez vos lunettes, vous ne savez pas avec qui vous prenez télévision. Vous pouvez me prendre pour...
Non, je vous vois très bien de loin, c'est de près.
Ouais, mais c'est mieux, c'est là que je suis le mieux. Le mot de la fin, Stéphane, c'est vous qui l'aurez, et ça sera un mot lambda aujourd'hui.
Oui, exactement. C'est quoi une personne lambda? On dit toujours une personne lambda. Premier venu, c'est une personne lambda, mais d'où ça vient?
C'est pas un mot latin?
C'est grec.
Très bien.
Alpha, bêta, gamma.
Oméga, comme les montres. Et tout de suite, Stéphane va puiser dans ses souvenirs ce voyage en Roumanie où, à l'aéroport de Bucarest, il avait investi dans une sublime chemise motif ours polaire. Stéphane nous raconte Dracula.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Je me dois de vous prévenir, chers auditeurs, pour nous conter l'histoire de Dracula, Stéphane Bern a exigé que le studio soit plongé dans le noir complet, que David Castello-Lopez cesse de manger de l'ail et qu'on nous serve du sang chaud. Vos désirs sont des ordres, Stéphane. Vous voilà donc dans les meilleures conditions pour nous raconter la sanguinaire histoire du comte de Dracula, le personnage central du livre de Bram Stoker.
N'ayez crainte, Mathieu, à votre âge, croire aux histoires de vampires, enfin. Quoique, après réflexion, autant le personnage de Frankenstein est sorti tout droit de l'imagination de Mary Shelley, autant celui de Dracula a bel et bien existé. Revenons d'abord, si vous le voulez bien, au Dracula de Bram Stoker. Son histoire est simple et efficace. Jonathan Harker est un jeune clerc de notaire qui voyage jusqu'en Roumanie pour conclure avec le comte Dracula une transaction immobilière. Il se retrouve prisonnier du château de cet homme terrifiant, au teint blanc, aux canines acérées, capable de se déplacer en rampant sur des murs à pic tel un lézard. Dracula en profite pour revenir jusqu'en Angleterre, où Mina, la femme de son prisonnier, et Lucie, une amie, attendent le notaire. Dracula aspire le sang de Lucie et tente de s'emparer également de Mina. S'ensuit alors une course-poursuite d'un groupe formé autour de Jonathan qui est parvenu à se libérer. Le roman se termine sur la mise à mort de Dracula in extremis par un coup de poignard dans le cœur.
Là, c'est du divulgachage de première. Si on a envie de regarder Dracula, par exemple, Stéphane, on connaît déjà toute l'histoire.
Je vous parle du livre. Bram Stoker publie cette histoire terrifiante de vampire en 1897. Il n'est pas le premier écrivain à s'intéresser à ces morts-vivants suceurs de sang. Le 19e siècle, notamment en Angleterre, est réputé pour son grand écart culturel. Le conformisme victorien, d'un côté, cohabite avec un certain romantisme, voire une passion secrète pour les sciences occultes. Bram Stoker entretient lui-même un rapport intime avec cet univers sombre. Il est fasciné par la mort depuis ses 5 ans. C'est à cette époque qu'une violente épidémie de choléra terrasse de nombreux habitants du nord de l'Irlande. Progressivement, il s'intéresse à l'ésotérisme et l'occultisme. Il ferait même partie d'une société secrète, la Golden Dawn, traduisée « Aube dorée ». Oui, je fais une moue parce que Aube dorée, c'est le titre d'un groupuscule d'extrême droite en Grèce aujourd'hui.
Ah d'accord.
Cette école, fondée à la fin des années 1880, se spécialise dans l'enseignement de la magie et des sciences occultes au Moyen-Âge. On y pratique des rituels d'après des manuscrits comme le livre des morts des anciens Égyptiens. Stoker flirte avec les ténèbres. Dracula devient son sujet de prédilection. Il suffit de lire la présentation qu'il en fait dans son roman. Son nez aquilin lui donnait véritablement un profil d'aigle. La bouche, ou du moins ce que j'en voyais sous l'énorme moustache, avait une expression cruelle et les dents éclatantes de blancheur étaient particulièrement pointues. Elles avançaient au-dessus des lèvres dont le rouge vif annonçait une vitalité extraordinaire chez un homme de cet âge. Mais au-delà du fantastique, je vous le disais, Bram Stoker s'est largement inspiré pour son conte Dracula d'un personnage bien réel qui a vécu en Roumanie il y a presque 600 ans. Dracula est une partie du nom emprunté à un certain Vladislav III ou Vlad Tsepech, né en 1431 en Transylvanie. Son père, Vlad II, dit Dracul, le dragon ou le diable, selon les traductions, un nom qui n'a rien de diabolique, mais qu'il doit tout simplement au fait d'avoir été décoré de l'ordre du dragon par l'empereur Sigismond de Hongrie et prince de Valachie, une principauté qui résiste tant bien que mal aux assauts réguliers du puissant empire ottoman, ce qu'on connaît aujourd'hui sous leur nom de Turc. L'enfance et l'adolescence de Vlad III ne sont pas les plus réjouissantes. Quand son père n'est pas capturé par les ennemis, c'est lui qui est fait prisonnier pendant plusieurs années dans les geôles turques. Il a à peine 13 ans. En tant que fils de prince, ses conditions de détention sont, c'est vrai, plutôt confortables. Mais il gardera de cette réclusion un goût de revanche, un goût de combat, un goût de sang. Car une fois installé à la tête de la Valachie, Vlad III, dit Dracula, le fils du dragon, se transforme en souverain sanguinaire. Son autre surnom n'est autre que l'Empaleur. Oui, la raison est simple, il prendrait un malin plaisir à torturer le moindre opposant à son autorité. L'empalement ferait partie de ses châtiments favoris. Le principe, si tant est qu'il faille vraiment l'expliquer, consiste à introduire un pieu dans l'anus de la victime qui, par effet de levier, n'a d'autre solution que de se laisser embrocher jusqu'à faire ressortir l'objet du crime par le thorax, les épaules ou la bouche. C'est selon comment ça tombe.
Très beau supplice.
Les empalés meurent alors dans d'atroces douleurs, soit d'hémorragie interne, soit de faim, de soif ou tout simplement dévorés par les vautours. Les bourreaux n'hésitent pas, quant à eux, à sélectionner un bâton arrondi pour que le supplice fasse moins de dégâts sur les organes internes et que la souffrance dure donc un peu plus longtemps.
Mon Dieu.
La pire anecdote sur ce Dracula bien réel s'appelle la nuit de la terreur. On raconte que pour impressionner ses ennemis turcs, il exige l'empalement de 20 000 ottomans. Une véritable forêt d'empalés. Visiblement, qui s'y frotte s'y pique.
Qui s'y frotte s'y pique, il a osé. Il a osé sur la nuit de l'empalement. Stéphane, vous n'avez aucune limite, aucun respect pour les morts.
Au contraire. Vlad III ne se contente pas d'une seule méthode de punition. Il serait par ailleurs friand de nombreux autres châtiments. Ébouillanté, décapité, pendre, brûler, frire, clouer, enterrer vivant. Certains ont même imaginé que pour punir les femmes infidèles, il aurait pu faire glisser en leur intérieur une souris affamée ou exiger qu'on frotte du sel et du vinaigre sur leur partie en sang.
C'est pas possible. C'est insensé, mais je sens que vous prenez un malin plaisir. C'est votre portrait préféré de la saison, j'ai l'impression, Stéphane. Vous êtes au sommet.
Mais
comment démêler le vrai du faux, peut-être, parce que ça paraît un peu gros.
Vous avez raison, je m'en étouffe tellement que je suis horrifié par ce que
bien
je
sûr,
raconte.
Bien sûr.
Mais comment démêler le vrai du faux sur Vlad III, considéré par les Roumains comme un héros national? Car les avis divergent sur la véracité de ces anecdotes macabres. Des historiens avancent même l'hypothèse que c'est le prince Dracula en personne qui aurait sciemment alimenté sa propre légende pour terrifier ses adversaires. Avec plus ou moins de réussite, parce que après 12 années passées en prison en Hongrie, il revient brièvement à la tête de la Valachie avant d'être décapité lui-même à 45 ans. Sa tête est alors portée triomphalement par le sultan turc au bout d'un pieu. Le goût du sang, c'est donc ce qui lie Dracula bien réel du XVe siècle au vampire romanesque de Bram Stoker. L'auteur s'est fortement inspiré aussi des légendes fantastiques que les familles d'Europe centrale et de l'Est plaisent à se transmettre au coin du feu. Dans son roman, l'écrivain insère régulièrement des clins d'œil à ces histoires entendues tout au long de sa vie. La mort de Dracula en est un exemple. Son cœur est transpercé d'un pieu. Cette fin n'est pas sans rappeler les méthodes que de nombreux habitants ont pratiquées pour combattre de potentiels vampires. Aujourd'hui encore, le vampirisme continue de faire parler. Si les 660 pages du roman de Bram Stoker ne vous suffisent pas, des agences de voyage se sont spécialisées dans le tourisme autour de Dracula, le personnage historique. Vous pouvez aller visiter la maison dans laquelle il est né, son château d'où s'est jetée sa femme, la forteresse où il a été emprisonné, la forêt dans laquelle il aurait fait empaler ses ennemis. Dépaysement garanti à 100%.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Dracula et peut-être démêler un peu le vrai du faux dans tout ça, nous sommes avec le spécialiste du mythe du vampire, Jean Marini. Bonjour Jean.
Bonjour.
On rallume les lumières et on parle de Dracula avec vous dans un tout petit instant sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre et nos sacrés monstres continuent. On parle de Dracula avec notre invité Jean Marini, Stéphane.
Oui, absolument. Jean Marini, vous êtes professeur honoraire de littérature anglaise et américaine, un grand vampiriste devant l'éternel. Vous avez publié une bibliographie monstrueuse, littéralement, sur le sujet. Le dernier, c'est votre dictionnaire des littératures vampiriques aux éditions Terre de Brume. Dracula est l'un des monstres les plus populaires. Est-ce que c'est parce qu'il syncrétise tous les sujets liés à l'humanité, la vie, la mort, la sexualité, selon vous?
Oui, je pense que effectivement le Dracula et le vampire d'une façon générale représentent toutes les angoisses, les fantasmes que l'on a pu développer autour de notre propre existence, c'est-à-dire la mort, comme vous avez dit, le sexe, la vie éternelle, etc. Enfin, il y a énormément de thèmes qui sont reliés aux vampires, et c'est sans doute la raison pour laquelle ils nous fascinent tant.
Le paradoxe, surtout du vampire, dites-vous, c'est d'être à la fois mort et vivant. C'est ça la raison pour laquelle il nous fascine tant, le vampire.
Il est mort et vivant, et en dehors du zombie, c'est le seul monstre de l'imaginaire humain qui soit à la fois mort et vivant, effectivement. Ce qui pose énormément de problèmes, bien entendu, parce que il ne vit que la nuit. Le jour, il est dans un état qui se rapproche de la mort clinique.
Dracula est un personnage de fiction, alors que Vlad l'Empaleur est un personnage qui a réellement existé, mais empreint de légende. Et je disais Jean-Marie Ni, que les Roumains le considèrent, Vlad l'Empaleur, comme un héros national. Bah, moi, j'ai du mal à, vu ses agissements, ou en tout cas sa légende, j'ai du mal à voir en quoi il est un héros national en Roumanie.
Alors, en fait, le personnage historique de Dracula a été oublié pendant des siècles. Et c'est le régime communiste qui l'a remis au goût du jour, si j'ose dire, parce que, comme Staline, Ceausescu avait besoin de personnages de l'histoire nationale de roumaine qui puissent montrer que la Roumanie était un grand pays. Et donc, Dracula, Vlad Tepeș, symbolise véritablement la résistance à l'Empire ottoman. Et il voulait faire venir en Roumanie des touristes, en particulier américains et japonais. C'est bien qu'il a établi un circuit touristique qui n'avait rien à voir avec le Dracula historique, mais qui avait un rapport direct avec le personnage de roman. C'est-à-dire que sur le col de Borgo, où Dracula est censé avoir son château fort, il n'y a jamais eu de château. Donc on a construit un hôtel qui s'appelle l'hôtel Château Dracula, et qui est en béton et qui est tout à fait moderne. Hein.
Est-ce que tous les sévices qu'il a commis, toutes les tortures, cette nuit de l'empalement, tout ça c'est vrai ou ça relève plutôt de la légende en fait? Une légende qu'il aurait peut-être construit lui-même d'ailleurs.
C'est en partie vrai, hein. Mais on a ajouté des tas d'anecdotes qui sont plus horribles les unes que les autres. Mais on sait par exemple qu'il a fait massacrer la population totale de la ville de Sibiu, c'est-à-dire 5000 personnes en une journée. Hein. Donc il était très très performant.
Oui, c'était pas un
sur
tendre
ce plan.
De toute façon.
Et puis lors de la campagne contre les Turcs, il a fait empaler 10 000 soldats turcs, hein, ce qui est absolument énorme. Hein.
C'est beaucoup de travail.
Et on dit même qu'à Brasov, il a pris un repas au milieu des malheureux empalés parce que ça lui donnait de l'appétit.
Ah oui, drôle de bonhomme tout de même. Hein.
Mmh. Ah oui, oui.
Oui, c'est un monstre quand même.
Ah, c'est un monstre, un monstre absolu. Mais alors, il faut dire aussi qu'il a été élevé à la cour du sultan turc, et donc il a appris sur place les raffinements des tortures que les Ottomans...
Ah, là-bas aussi, on torturait à tout va ?
Ah bah oui, chez les sultans ottomans, on n'était pas tant non plus. Hein.
Ah non,
on était raffinés dans les sévices.
Ah, tout à fait, oui.
Alors, Jean-Marie, je ne veux pas vous faire de peine, mais je me suis laissé dire, en regardant les dernières séries du moment, les derniers films, que les zombies tendent à remplacer les vampires. Le vampire serait-il devenu has-been ?
Il a connu une gloire, si j'ose dire, absolument incroyable, dans la dernière décennie du XXe siècle, puis dans la première décennie. À l'heure actuelle, il est un peu en perte de vitesse, effectivement, parce que le zombie l'a supplanté. Et la faute en est que, à mon sens, que la littérature a tendu à faire du vampire un personnage de plus en plus sympathique.
Ouais, c'est vrai,
il a en quelque sorte complètement anesthésié. Or, le public aime toujours les récits violents, horribles, et le zombie est particulièrement horrible. C'est un personnage auquel on ne peut absolument pas s'identifier. Hein. C'est un cadavre en pleine décomposition, il n'a rien de séduisant. Hein.
En tout cas, merci Jean-Marie Ni. Je rappelle votre dernier ouvrage que vous avez écrit avec Jacques Finet, Dictionnaire des littératures vampiriques, paru aux éditions Terre de Brume. Tout un programme.
Oh oui.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Au revoir.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, on réunit des sacrés monstres, voire des monstres sacrés. Après le terrifiant comte Dracula, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'un monstre ô combien plus sympathique.
Oh oui, mais en même temps, Stéphane, plus sympathique qu'un type qui aimait, je vous cite, ébouillanter, décapiter, pendre, brûler, frire, clouer, enterrer vivant ses ennemis, c'est pas très difficile. Et c'est en effet le profil de mon personnage cet après-midi, le plus célèbre des monstres gentils.
Ah là là, oui.
Ah non, Stéphane, pas celui de votre enfance, celui de la nôtre, Shrek, l'ogre pétoman qui a lancé les studios DreamWorks en détournant malicieusement les codes des contes de fées. Je préfère d'ailleurs vous prévenir d'emblée, Stéphane, le monde se divise entre ceux qui apprécient l'humour un peu leste, disons rabelaisien de Shrek, et ceux qui y restent totalement hermétiques. Je compte sur vous pour au moins faire semblant de vous intéresser à mon portrait du jour. En même temps, je ne me fais pas vraiment trop de soucis. Vous nous avez prouvé dernièrement avec notre invitée Catherine Dolto que même quand vous n'accrochiez pas à l'humour d'une personne, vous donniez admirablement le change, souvenez-vous.
Elle savait botter en touche avec de l'humour. Elle revenait quelquefois d'une conférence, elle me disait « Tout le monde a été d'accord avec moi, c'est donc que je n'ai rien dit d'intéressant. »
Ah oui, c'est drôle.
Ou alors elle disait « Je veux bien vous donner un conseil à condition que vous me promettiez de ne pas le suivre. »
Ah oui, c'est fou, ouais. Ah oui.
Donc là, si vous voulez, ayez l'amabilité de faire pareil, vous m'interrompez à peu près toutes les 3-4 phrases pour dire « Ah oui, c'est fou !»
Non, je dirais c'est passionnant.
L'illusion sera... Bah, c'est bien aussi,
c'est
ça sera
parfait.
Merci
c'est...
d'avance. Direction donc le royaume de fort fort lointain. Un monde merveilleux peuplé de créatures de contes de fées, licornes, princes charmants, princesses, ânes qui parlent, chabotées avec la voix d'Antonio Banderas et le regard craquant choupinou de Stéphane quand il demande à la dame de la cantine s'il peut avoir du rap de Quiche Lorraine. Et au milieu de tout ça, Shrek. Qui est Shrek? Première étape, fermez les yeux et imaginez Olivier Pouls à la fin d'un banquet.
Ah oui, ça sent le roquefort.
Vous y êtes. Maintenant, deuxième étape, imaginez Olivier Pouls à la fin d'un banquet qui serait tombé dans la cuve à chewing-gum de Rabbi Jacob. Vous obtenez un ogre vert. Je vous présente Shrek. Alors, je sais, Stéphane, que vous vous y connaissez en monstre.
Moi, j'habite Pigalle.
Vous habitez Pigalle, donc vous êtes un expert. Mais vraiment, Shrek est un monstre très différent des autres. Il n'en parle pas, comme votre ami Vlad. Il n'est pas manipulable, comme la créature du Dr. Frankenstein. Et surtout, il a l'accent écossais. Ce qui le rend immédiatement sympathique, car en plus, c'est un ogre pacifiste qui, plutôt que de se battre, préfère toujours résoudre les conflits par la voie diplomatique.
Can't we just settle this over a pint?
Est-ce qu'on peut régler tout ça autour d'une bonne pinte? Voilà la philosophie de Shrek. La voie diplomatique consiste à boire des pintes. Alors, un ogre gentil, pétomane, écossais et ouvertement alcoolique, vous le sentez Stéphane, nous avons clairement affaire à un anti-héros, ce qui, en 2000, date de sortie de Shrek 1, est très nouveau hein, dans l'univers jusqu'alors encore à ses premiers degrés du film d'animation familiale. Le personnage n'est d'ailleurs pas une pure création des studios DreamWorks. Shrek est né de l'imagination de l'écrivain et cartooniste américain William Stig. Il apparaît pour la première fois dans Shrek point d'exclamation, hein, un livre fantastique et humoristique publié en 90. Le nom Shrek est la romanisation d'un mot yiddish qui correspond à l'allemand Schreck qui signifie, demandons à notre éminent germaniste Stéphane, Schreck, la peur.
Ah, Schrecklich, ça veut dire oui.
Schrecklich, bien sûr.
Schrecklich, ça veut dire ça fait peur.
Évidemment.
Ah oui, c'est très juste.
C'est très juste. Mais oui, Stéphane, je comptais sur vous, mais vous nous avez un peu déçus. Oui, mais vous êtes
rattrapé. Non,
mais,
oui. Mais j'y étais pas du tout.
Dans le livre qui sert de base au premier film, Shrek est un monstre répugnant, cracheur de feu, indestructible et qui utilise son physique disgracieux comme une arme de dissuasion. Shrek fait la connaissance d'une sorcière qui, en échange d'un de ses poux, apparemment très rare et précieux, lui lit son avenir. Grâce au mot magique Apple Strudel, il va rencontrer un âne qui l'amènera dans un château où il affrontera un chevalier et épousera une princesse encore plus laide que lui. Stéphane?
Ah oui, c'est fou. Mais...
Merci.
Ah oui.
Et cette histoire qui va intéresser Steven Spielberg, rachète les droits dans l'idée de l'adapter un jour, mais entre-temps, le studio novateur DreamWorks veut le jour, rachète ses droits et donne son feu vert pour le développement du projet. Au passage, le personnage change un peu, le Shrek de l'an 2000 est beaucoup plus propre hein, et accessible que le Shrek de William Stig, moins effrayant physiquement aussi. Shrek n'est pas un monstre méchant par nature, mais contraint à une méchanceté en réponse aux persécutions de la société. Shrek bouscule donc tous les codes des contes de fées dans lesquels de braves princes tuent des dragons et sauvent leurs damoiselles, dans lesquels la morale absolue est que le bien est beau et que le mal est laid. Tout ça vole en éclats avec notre monstre vert et c'est très drôle, plein de second degré et d'humour noir habilement dosé. On peut enfin se moquer du brushing du prince, les damoiselles sont suffisamment badass pour se sauver elles-mêmes, elles n'ont pas besoin du prince, et les dragons s'avèrent être tout à fait fréquentables si on prend le temps de les connaître. Avouez que c'est chouette, Stéphane.
Ah oui, c'est drôle.
Stéréo. Shrek est fier d'être un ogre, fier d'avoir un sale caractère, fier aussi d'être un peu vulgos, Patrick Sébastien dirait nature. Je ne vous divulgage pas l'histoire, mais un petit peu quand même. Shrek vivait peinard en solo dans son marais, pas le vôtre Stéphane, un vrai marais. Des squatteurs arrivent, parmi lesquels les trois petits cochons et Pinocchio. Oui, chez DreamWorks, ça y va sur la schnouf. Pour reprendre le contrôle de son marais, Shrek passe un deal qui consiste à délivrer une princesse des griffes d'un méchant dragon, sauf que, Attention, la grosse spoiler, la princesse, ça va être un monstre aussi, une ogresse. Et ils vont tomber amoureux. Alors en fait, c'est vrai que vous l'avez compris, est une parodie des autres adaptations souvent assez mièvres des contes de fées. De jolis scuds sont envoyés discretos au grand rival Disney. Et pour cause, l'un des fondateurs de DreamWorks n'est autre que Jeffrey Katzenberg, un ex-pond de chez Disney, on lui doit notamment le Roi Lion, qui a fini par quitter la souris en culotte pour créer un studio plus funky. Shrek n'a donc aucun scrupule à se moquer de son ancien employeur. Non seulement il attaque Disney au cœur de son empire, dépassant même ses compétences en termes d'animation, mais il est aussi truffé de références moqueuses envers les parcs d'attractions et les dessins animés de la firme. Alors, je sais ce que vous allez me dire, Stéphane.
Ah oui, c'est fou. Ouais.
Voilà, là, non, là, vous allez me dire, comment se fait-il que Shrek ait un accent écossais ? Alors déjà, bravo Stéphane, si vous posez la question, c'est que vous avez vu le film en VO, car en français, c'est Alain Chabat qui double l'ogre et il ne fait pas l'accent écossais. C'est bien sûr la voix originale de Shrek, le comédien Mike Myers, inoubliable Austin Powers pour les amateurs, qui a eu l'idée de cet accent écossais, qui n'était pas du tout prévu au départ, pas plus que Mike Myers lui-même d'ailleurs. À la base, c'est le comédien de Saturday Night Live, Chris Farley, qui devait donner vie à Shrek. Il avait d'ailleurs enregistré la quasi-totalité du film, mais une crise cardiaque l'a empêché de terminer son engagement.
Ah oui, c'est drôle.
Non, pas là, l'erreur de timing, c'est vrai. On pense à ses proches, il est vraiment mort. Mike Myers entre alors en scène et enregistre une première version du film, avec son accent normal, l'accent américain, mais lors du visionnage, il se rend compte que ça le fait moyen, il n'est pas satisfait, et il demande à tout réenregistrer, ce qui coûte une blinde, avec l'accent écossais. Bingo, cet accent fera tout le charme de Shrek. Le film rapportera 484 millions de dollars, il aura 3 suites, un spin-off, une série télé, des jeux vidéo et même une comédie musicale à Broadway. Shrek 5 est actuellement en préparation. En projet également, paraît-il, un guide des mauvaises manières préfacé par Stéphane Bern, sorte d'anti-manuel de Nadine de Rothschild avec des chapitres passionnants.
Comment bien péter.
Riche de détails qui vous permettront d'être élégant en toutes circonstances.
C'est pas tout de péter, faut péter fièrement.
Oui Stéphane, laissez-nous la surprise de la lecture. Alors, est-ce que je vous ai donné envie de regarder Shrek, Stéphane ?
Ah oui.
Oui,
là vraiment.
Là, vous êtes emballé.
Ah oui, je suis emballé.
Super. Shrek,
oh,
tu entends ?
C'est tellement drôle.
Tu entends, Shrek ? Tu entends ? Oui, même Stéphane Bern aime ton humour un peu scato. Comment on pourrait fêter ça ?
Je pourrais peut-être aller décapiter les bourgeois de tout un village, planter leur tête sur des pics, un coup de canif et je leur aspire la moelle du cerveau avec une paille de fer.
Eh ben voilà, on retrouve Vlad l'Empaleur. Ouais. Non, il déconne, Shrek, il est comme ça. Il est très second degré, vous savez.
Merci Mathieu, c'était passionnant. 99.
Vous avez jamais vu Shrek ?
Si, j'ai vu Shrek.
Si, vous avez
mais j'ai vu
longtemps.
Shrek 2 ou 3.
Oui, il est bien, Shrek 2.
Oui. Il y a donc 1% de faux. Il y a 2-3 trucs faux, non ?
Oui, votre guide des mauvaises manières. Oui. Mais ça serait drôle que c'est un guide des mauvaises manières.
Oui, ça serait bien, oui.
Parce qu'on ne vous attend pas là-dessus. Ça serait un beau
tout
contre-pied.
Tout ce qu'on a envie de faire.
Et qu'on n'a pas le droit de faire dans les dîners.
On n'a pas le droit de faire dans les dîners. Exactement.
Europe 1, historiquement vôtre.
Exceptionnellement, c'est avec un certain soulagement que nous allons dire maintenant au revoir à nos monstres du jour.
Au revoir les monstres. Bonjour les beaux gosses. Comme d'habitude, la dernière demi-heure d'Historiquement Vôtre est dédiée à un retour aux origines avec nos enquêteurs de l'histoire, 3 BG qui affolent les réseaux sociaux, surtout Olivier Pouls, le Casanova du gras. Son secret, no sport, a lot of gratin dauphinois.
Ouais, oui. Là, vous n'allez pas être déçu parce que Stéphane, il va falloir compter sérieusement les points Weight Watchers avec la part de gratin dauphinois que je vais vous donner
tout
à l'heure.
D'un coup.
Là, vous allez faire exploser le compteur.
Ouais. Aïe, aïe. Ouais, c'est terrible.
Le mot de la fin, Stéphane.
C'est une chronique lambda.
Une chronique lambda, mais d'où vient cette expression
de
lambda ? Il vient du grec, je vous l'annonce, parce que Stéphane ne savait pas, il pensait que c'était latin. Et tout de suite
Mais vous savez quoi ? Non seulement vous êtes pervers, mais vous êtes une imposture intellectuelle. Voilà. Tout de suite, on retrouve David Castello-Lopez. On va remonter aux origines.
Aux origines de quoi, Stéphane ?
Je mets un peu de teaser, là, vous voyez.
Ah oui, on sait pas.
On n'est pas obligé de le dire, on le sait depuis le début qu'il va nous apprendre à lire.
Un truc qui se passe chez l'ophtalmo.
Chez l'ophtalmo,
tout à fait.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
C'est un garçon plein de secrets qui, il faut dire la vérité, nous confie sa chronique avant l'émission. Hein. On a une petite fiche, mais on n'a pas le droit de dire la moitié des mots qui sont dessus. C'est-à-dire que c'est un grand secret, il faut l'amener doucement. Alors aujourd'hui, les origines d'un objet du quotidien qu'on connaît tous, enfin tous ceux qui sont myopes en tout cas, quand on va chez l'ophtalmo. Ça va, j'ai pas trop défloré ?
Tout à fait, c'est les trucs avec les lettres à lire chez les opticiens. Voilà, c'est ça. Vous savez pas, moi, à quel point j'adorerais porter des lunettes ? Parce que ça me va super bien. Je veux dire, ça équilibre mon visage, ça me donne l'air calme et viril à la fois. Mais malheureusement, depuis toujours, j'ai une vue parfaite. Voilà, c'est comme ça. Alors, il y a des gens qui me disent, t'as qu'à mettre des lunettes sans correction.
Oui.
Genre juste des montures avec des vitres, pourquoi pas? Ça ferait comme un bijou, en fait. Ça sert à rien, mais c'est classe. Et en fait, j'ose pas. Et je crois que si j'ose pas, c'est parce que je me suis imprégné de la vision James Bond des bijoux masculins. À savoir que les seuls bijoux acceptables pour un homme, ils doivent au moins faire semblant d'avoir une fonction. Il y en a que deux valables en fait, la montre et les boutons de manchette. Vos boutons de manchette, ils peuvent être en diamant. Vous pouvez quand même dire cet objet a une fonction avant d'être un ornement, parce que l'ornement, c'est l'ornement pur, c'est que pour les filles.
Vous êtes très vieux jeu, hein.
Ouais, ouais, c'est comme ça. Alors depuis une vingtaine d'années, les rappeurs sont en train de changer un petit peu ça. C'est vrai qu'on peut pas soupçonner Tupac, par exemple, de pas être un vrai mec, hein. Et pourtant, il était couvert de colliers et de bagouses. Mais bon, vous imaginez bien que moi, habillé en rappeur, c'est un peu comme si on mettait un maillot de basket à Stéphane Bern. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Donc voilà, pas de lunettes pour moi. Ce qui ne m'a pas empêché d'aller chez l'ophtalmo quelques fois pour faire des tests et d'avoir été tenté de
juste
faire...
pour montrer l'ophtalmo que vous avez 10 sur 10. C'est pas sorti, j'ai été vu. 10 là, 10 là. Merci.
Non, j'ai été tenté de faire semblant que j'arrivais pas à lire juste pour avoir des lunettes, vous voyez. Mais j'arrivais pas à lire quoi?
Oui,
eh bien à lire les lettres de taille décroissante qu'il faut déchiffrer pour savoir quel est le niveau de notre vue. Ça s'appelle un tableau optométrique. Et naturellement, bien sûr, ça m'a donné envie de savoir d'où ça venait les tableaux optométriques, parce que je suis comme ça. Voilà. Alors, ce qui est intéressant d'abord, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y avait avant. Eh bien, avant, au XVIIIe siècle en tout cas, il n'y avait pas grand-chose. C'est-à-dire que si vous aviez des problèmes de vue, vous deviez diagnostiquer le problème vous-même et essayer des lunettes une à une pour trouver celle qui vous allait. Et il y avait quand même quelques marchands de lunettes qui étaient un peu sympas et qui vous aidaient en grattant sur un coin des verres des âges. Genre 50, c'était des lunettes pour les gens de 50 ans. Mais ça partait du principe que tous les gens de 50 ans avaient la même vue, le même problème de vue au même niveau, ce qui, depuis on l'a appris, était pas vrai, en fait. Voilà. Et au milieu du 19e siècle, en Hollande, il y a un docteur qui s'appelait Franciscus Donders et qui a eu l'idée de prendre une liste de formes standardisées, de les placer à une distance fixe des patients et de leur demander ce qu'ils voyaient. C'est une connaissance à lui qui a dessiné le premier test. Et au départ, c'était pas des lettres, mais c'était des symboles. Et le problème des symboles, entre autres, c'est qu'ils étaient un peu trop faciles à voir et donc on pouvait un petit peu tricher. Voilà.
Et oui, on peut le deviner.
Et on peut le deviner. Et très peu de temps après ça, ça a été remplacé par des lettres et ça n'a pas vraiment bougé depuis. Et le truc, c'est qu'à peu près au même moment, sans qu'on sache s'il y a eu une influence de l'un sur l'autre ou pas, il y a un médecin français qui s'appelait Ferdinand Monnoyer qui a fait la même chose exactement, à une petite exception près. Vous voyez, le tableau original, c'est celui-ci. Ah, je le montre apporté pour les gens qui sont sur Internet et qui voient la vidéo. Ça, c'est le tableau original. Donc,
vous arrivez à lire, Stéphane?
Oui.
Le E.
Ça, c'est un E. P-E-D-P-E-C-F-D. E-D-F-C-Z-P-P-E-L-O-P-E-D.
Alors là, et vous êtes obligé de le dire avec cette voix un petit peu... Vous pouvez le chanter aussi.
Ça vous donnera des bons sons à reprendre, Mathieu.
Oui,
ça,
mais toutes ces lettres décomposées, je pourrais recréer des mots entiers en agençant exactement les lettres.
Il n'y a pas tout l'alphabet.
Ça, c'est la version donc hollandaise, qui est aussi la version utilisée en Angleterre. Mais donc, il y a ce Français, Ferdinand Monnoyer, qui a fait la même chose exactement, à une petite exception près, c'est qu'il a mis les grosses lettres en bas et les petites en haut. Et ce test-là, c'est celui qui est encore aujourd'hui est utilisé par les ophtalmologues français. Et c'était un petit malin facétieux, Ferdinand Monnoyer, hein, aussi. Alors, il a caché un message dans ses lettres.
Mais c'est toujours les mêmes, non?
C'est toujours les mêmes.
Il suffit de les apprendre.
Voilà.
Et quand vous allez chez...
Qu'est-ce qu'il a caché?
Il y a un code?
C'est un mot secret.
Prenez la deuxième ligne en partant du bas. OK?
Oui.
Et prenez la dernière lettre à droite. Ici.
F.
Faites la même chose avec la ligne d'au-dessus. Puis encore, c'est le dessus.
Ferdinand Monnoyer
de l'autre côté. Il a caché son nom à chaque fois que vous allez chez l'opticien et que vous voyez ça. Il a caché son nom dans son invention.
Le mec s'est fait un égo trip.
Exactement,
quoi.
Il s'est fait un égo trip avec son tableau optométrique. C'est mégalo, mais c'est sympa.
Oh, incroyable.
Fun fact de ouf.
Fun fact de dingue. Et j'ai pas très bien compris. Est-ce que ça, c'est des découvertes simultanées indépendantes ou ils se sont influencés là en Hollande?
C'est ce que on ne sait pas, s'il n'y a pas eu une influence de l'un sur l'autre. C'est une bonne idée. Elle peut apparaître au même moment chez deux personnes différentes. En tout cas,
est-ce que les Chinois ont leur version avec l'alphabet chinois?
Bonne question. Je sais qu'il y a une version cyrillique.
Ouais.
Je sais pas ce que font les Chinois. J'imagine qu'ils doivent faire la même chose.
En tout cas, merci beaucoup, David. On retrouve Les Origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.
Et l'heure est venue de découvrir la folle histoire du gratin dauphinois avec Olivier Pouls. D'où vient-il? Comment le préparer? Surtout, comment éviter de
les
se tromper
écueils
dans la recette du gratin dauphinois?
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, l'émission qui pense à vos neurones, mais aussi à vos papilles, en la personne d'Olivier Poult, notre expert en historiographie gastronomique, un terme qui n'existe pas, que je viens d'inventer. Olivier, aujourd'hui l'histoire du gratin dauphinois.
Ça vous plaît le gratin dauphinois
quand même? Ça fait plus que vient du Dauphiné déjà.
Ça m'excite.
Ah oui, ça vient du Dauphiné. Alors le Dauphiné, petit rappel, quatre départements, lesquels?
L'Isère déjà,
oui. La Savoie.
Non, pas la Savoie, c'est plus bon.
La Drôme, les Hautes-Alpes, et une partie du Rhône. Voilà.
Je crois que je me serais trompé sur les quatre.
Moi, j'aurais pas dit quatre, j'aurais pensé Drôme et Isère.
Il y en a quatre. Et donc,
heureusement, ça faisait pas partie du quiz, Stéphane, donc vous n'avez pas de points au moins.
Non, mais peu importe, vous savez, l'essentiel, c'est de participer.
De se cultiver aussi, bien sûr, de participer.
Et donc, ce plat apparaît entre le XVIe et le XVIIe siècle, au moment, évidemment, où la pomme de terre commence à elle aussi faire son apparition. Et la pomme de terre, on le sait, elle vient d'abord d'Italie, elle traverse les Alpes.
C'est M. Parmentier qui l'a
popularisé. Qui en fait la promotion et qui sauve une partie, je pense, de la population de la famine grâce au développement de la culture de la pomme de terre. Mais ce gratin dauphinois, il est aussi lié à la Révolution française. Oui. Car le 7 juin 1788, la Révolution commence à gronder en France.
Dans la ville, c'est pas ça qu'il attendait de vous, visiblement.
Ça commence à Vizille, vous savez, c'est en Isère. La révolution, en fait, a commencé en Isère.
Et notamment, rapport avec le gratin dauphinois.
Ben, je vais vous le dire.
Oui, il va nous le dire.
À Grenoble, le 7 juin 1788, le duc de Clermont-Tonnerre, qui est le patron de l'armée sur place, évite un bain de sang, puisque les insurgés commencent à monter en puissance, et il fait retirer sa garde de manière à éviter qu'il y ait un bain de sang, et ce fameux duc de Clermont-Tonnerre, qui est reconnu pour ça, est aussi un grand amateur de chair. Et quelques jours plus tard, il invite ses officiers à Gap, et il va leur préparer un plat qui, pour la première fois, sera dénommé comme étant gratin dauphinois. Il naît à ce moment-là, à cette époque-là. Et évidemment, il va se répandre dans la région ensuite, dans les auberges. Et il va arriver un petit peu plus tard à Paris, sous donc ce nom de gratin dauphinois, avec une règle absolue, c'est que c'est de la pomme de terre, évidemment, du lait, un peu de crème, mais pas de fromage. Et c'est vrai que beaucoup de recettes de pseudo-gratin dauphinois aujourd'hui vous disent de mettre du fromage dedans. Dans le vrai, dans l'authentique gratin dauphinois, il n'y en a pas. Et pourtant, ça n'empêche pas le plat de gratiner, d'avoir cette petite croûte par-dessus.
Mais comment ça peut gratiner sans fromage?
Alors, eh bien là, je vais répondre à cette question parce qu'il y a une astuce. L'astuce consiste évidemment à prendre des pommes de terre, 1 kg, 1 kg, 1 kg 2, à les éplucher, à simplement les passer sous l'eau, à les découper en petites rondelles de 3 mm d'épaisseur. Et à ce moment-là, surtout, ne pas les laver, car il faut conserver l'amidon de ces pommes de terre. Et c'est l'amidon qui, en cuisant avec le lait et avec la crème, va former cette petite croûte et va permettre donc de gratiner sans qu'il y ait pour autant du fromage.
Vous mettez quoi comme pomme de terre? De la rate du Touquet, de la princesse Amandine?
La princesse Amandine, alors, c'est ma copine. Certaines princesses ont besoin d'être bien beurrées.
Bien beurrées, oui.
Et on pourrait, mais alors,
pour être dégustées.
Les pommes de terre à gratin ne sont pas des pommes de terre à chair trop ferme, comme par exemple la rate du Touquet. Faire les rates, c'est plutôt pour les sauter. Prenez une pomme de terre avec une chair un petit peu plus moelleuse. Vous pouvez prendre des agrias, vous pouvez prendre par exemple des binches, ça marche pas mal aussi pour faire un gratin. Ça donne un gratin un petit peu plus souple, avec des pommes de terre qui vont se défaire un peu. Moitié lait, moitié crème, en tout cas en ce qui me concerne.
Combien de quantité?
Un demi-litre de lait, un demi-litre de crème. Une petite
crème
gousse d'ail.
Ou crème
entière épaisse?
Une crème épaisse.
D'accord, c'est fini White Watchers. À un moment, il faut arrêter de penser à ça.
Vous pouvez commencer à compter les points, là.
Il faut se faire plaisir.
Donc, une petite gousse d'ail qu'on va frotter dans le fond du plat. On va disposer nos pommes de terre, on va porter le lait évolution, on va rajouter la crème, on va mélanger tout ça, on va saler, poivrer, on verse sur les pommes de terre et on enfourne. Il faut pas cuire trop vite. Le secret d'un gratin réussi, c'est une cuisson à 150-160 degrés et plutôt 50 minutes, 1 heure. Et après, un temps de repos aussi, qui est très important. Donc, on ouvre la porte du four, on laisse tomber la température et on laisse reposer pendant au moins une demi-heure. Et ça va permettre à la crème et au lait de finir d'être absorbé par la pomme de terre.
Il faut bien couper bien fin les pommes
assez,
de terre.
Assez fin, et c'est vraiment l'équilibre, cette pomme de terre qui reste moelleuse et puis le petit gratin qui va arriver tout naturellement
grâce à l'amidon.
Exactement.
Merci beaucoup Olivier. On peut retrouver évidemment toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr et on vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte de 11h à 12h30 sur Europe 1. Stéphane Bern est là, il est dans les starting blocks pour sa chronique. Le mot de la fin, Stéphane, l'origine d'une expression, aujourd'hui l'origine d'un mot qu'on utilise souvent.
Lambda,
un type lambda. Ça c'est lambda,
oui.
Mais d'où ça vient ?
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Nous atteignons le point culminant de cette émission, la chronique de Stéphane Bern, qui sera aujourd'hui tout sauf lambda, quoique.
Oui, vous souvenez, hier je vous proposais une chronique pas piquée des hannetons. Et bien ce matin, pour faire la moyenne, voici une chronique lambda.
Oui Stéphane, pour les auditeurs qui n'étaient pas là hier, vous nous avez expliqué l'origine de l'expression « pas piquer des hannetons » et aujourd'hui, c'est lambda. Alors, quelle est l'origine du mot lambda? C'est peut-être un mot latin, c'était en tout cas mon intuition.
Non, vous confondez peut-être avec la lambada, non, c'est qui est sud-américaine. Non,
je sais que je ne suis pas très malin, Stéphane.
Mais non, mais vous avez envie de danser, je comprends. Vous avez envie de
d'être collé serré.
Lambda est tout simplement, comme je vous le disais tout à l'heure, une lettre de l'alphabet grec. Si on dit de deux choses qu'elles sont l'alpha et l'oméga, ça veut dire qu'elles sont le commencement et la fin, qui sont les deux lettres, la première et la dernière de l'alphabet grec. Un être alpha est un être supérieur. Il arrive le premier. La lettre lambda, c'est la lettre L. Ben, elle est au milieu. Elle est en 11e place, sans charisme, sans grandeur. Elle est, je vais vous dire, elle est quelconque. Voilà. Traditionnellement, dans le langage familier de l'école polytechnique, on désignait la côte lambda comme l'élève du milieu, celui qui ne pouvait pas frimer d'être le premier, ni avoir la sympathie, si vous voulez, des derniers, des cancres. Et pourtant, lambda pourrait frimer. Einstein, en 1917, rajoute une constante appelée lambda à sa théorie de la relativité générale, en se rendant compte que l'univers est soit en expansion, soit en contraction. Il est donc dynamique. Je ne sais pas si ça vous rassure, mais moi, de toute façon, j'ai rien compris à la théorie de la relativité restreinte. Est-ce que c'est ça?
Ah, c'est ça.
Ben oui, c'est ce qu'on a appelé la relativité restreinte.
Mais la relativité générale, en revanche, c'est bon. Vous avez.
Il a écrit 3 livres dessus. Oui.
Excusez-moi.
Secret d'histoire de relativité générale.
Donc, lambda, ça veut dire quelconque. Terminons avec une situation plus accessible. Par peur d'être quelconque, j'ai fini par n'être rien. Ah. Et c'est un grand penseur roumain, Émile Cioran.
Magnifique, Stéphane. Dites-nous, c'est l'occasion, puisqu'on parle des classements à l'école, vous étiez combien, vous, dans la classe?
Lambda. Moyen. Vous étiez lambda? J'étais juste à la moyenne. Je passais ric-rac.
Mais en histoire, vous avez dû avoir une bonne note.
Oui, j'étais bon en histoire. Ah. Et étrangement, j'étais bon en langue aussi.
Mais vous êtes très bon en langue. D'ailleurs, c'est vous qui faites la chronique Le mot de la fin. Vous savez, tout se tient. Ici,
en langue, je parlais de l'anglais.
Ah, vous étiez fort en anglais. Oui. Ah, ça, c'est plus étonnant, en revanche. Oui, ça, c'est beaucoup plus étonnant. Notre émission se termine. Un numéro d'Historiquement Vôtre consacré aux grands monstres de l'histoire. Alors, Stéphane, entre nous, lequel vous a fait le plus flipper? Dracula, la créature de Frankenstein ou Shrek, par ses manières à table? Non, Olivier, s'il vous plaît. Stéphane déteste aujourd'hui. S'il vous plaît, Olivier.
J'aime pas beaucoup Frankenstein.
Frankenstein,
mais j'aime
il
beaucoup
n'a pas
Dracula,
beaucoup votre...
Oui.
Ah, Dracula. Non, c'est surtout, le pire, c'est que c'est vrai que vous préférez, non pas le personnage de Dracula, mais celui qui l'a inspiré.
Vlad l'empaleur. Héros national.
Oui, qui a empalé des gens, qui a fait bouillir d'autres.
On s'ennuyait à l'époque.
Et donc, ça justifie des occupations comme ça.
C'était des Turcs en plus.
Alors attendez, j'ai l'ambassade de Turquie en ligne.
Bah, ils ont une chose à faire. Qui s'occupe d'Erdogan, mais ça sera bon.
Plus sérieusement, les amis, c'était quoi le monstre qui vous terrorisait lorsque vous étiez enfant?
Le père Fouettard.
On sent que vous avez grandi dans l'Est. Hein.
Oui. Mais c'est pas un monstre, c'est...
Non, mais
c'est
pas un monstre. Oui.
Mais vous êtes pas
parce que il découvrait les enfants et il les mettait dans le petit saloir.
Il y avait un épisode de Titi et Gros Minet où Titi prenait une sorte de substance qui le faisait devenir une sorte de monstre gigantesque tout jaune et tout tordu comme ça.
Vous faites bien le monstre.
Et ça m'a... Et en fait, quand j'en parle encore aujourd'hui, ça me terrorise un petit peu. J'appelais ma mère pour qu'elle regarde avec moi.
Écoutez, c'était un numéro vraiment éminemment historique, puisque nous avons fini sur Titi et Gros Minet. Pour tout savoir sur les monstres, lisez, je vous le rappelle, le nouveau hors-série de Lire, le magazine littéraire consacré à Frankenstein et les monstres célèbres de la littérature, en partenariat avec Europe 1. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures, Stéphane, à demain.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.